Alors, si maintenant je passe à la vie, si je regarde la vie, eh bien, même constat que pour l'univers matériel, alors qu'il y a à peine un siècle, on n'aurait jamais dit qu'il y avait une sorte de similitude ou de grande unité entre ce marronnier, d'accord, et vous, d'accord, et l'araignée, et la bactérie, et le dinosaure. Jamais personne n'aurait osé, non pas simplement parce que on ne veut pas vous vexer, mais on aurait dit, mais non, le marronnier, ça c'est la botanique. Oui. L'araignée, ça c'est la zoologie. Oui. Et personne n'aurait dit, ben, tout ça, finalement, fonctionne sur la même mécanique. Or, aujourd'hui, et c'est prodigieux, il faut s'émerveiller de cette profonde unité, tout le vivant, de la bactérie à l'homme, en passant par le marronnier, par la mouette, par le mouton, par le chamois, par le diplodocus, par l'archéoptérix ou le tyrannosaure roi, tout ça, on le sait aujourd'hui, fonctionne à partir des mêmes matériaux et des mêmes mécanismes de base. Et ces mécanismes sont un programme qui donne les indications pour construire le vivant, un programme écrit dans un alphabet à 4 lettres, c'est une langue et qui permet d'écrire les programmes avec un alphabet de 4 lettres qu'on appelle les acides nucléiques, hein, adénosine, thymine, cytosine et guanine, hein, ATCG. Donc peu importe la chimie ou les noms de ceci, mais ce sont les lettres qui permettent d'écrire le programme, la recette de cuisine pour faire du vivant. Alors ça c'est la recette de cuisine écrite dans un livre qui est en fait notre génome, ou le génome. Alors, ces recettes sont copiées afin qu'elles soient exécutées dans la cuisine. La cuisine du vivant, c'est les ribosomes. Ce sont des usines qui récupèrent la recette de la cuisine, oui, et qui, d'une certaine manière, commencent à travailler pour faire les éléments du vivant. Alors, les éléments du vivant, c'est les ingrédients pour la recette. Donc, pour faire une recette, il vous faut la recette. Pour faire un plat, il vous faut la recette, mais il vous faut des ingrédients. Et les ingrédients, ce sont les acides aminés. Et qu'est-ce que c'est un plat? Ben, c'est la réalisation d'une cellule, la réalisation d'un enzyme, la réalisation de toutes sortes de choses. Et comment on fait du vivant? Eh bien, en accrochant des acides aminés les uns à côté des autres, en suivant la recette qui est donnée, qui est inscrite dans cette langue à 4 lettres. D'accord? Alors, le livre de recettes, c'est l'ADN. Bon, l'acide désoxyribonucléique, c'est cette grande molécule double hélice dans laquelle on a les recettes de cuisine pour faire de la peau, pour faire du sang, pour faire des neurones, pour faire des os, etc. Et comment fait-on tout ça? Eh bien, le programme vous dit, bon, allez, donnez-moi la recette pour faire les os. Je prends dans le milieu des acides aminés, je les combine suivant la recette, et puis sort du ribosome une protéine qui va se reconfigurer, qui va se recourber et qui va donner ce qu'il faut. D'accord? Dans chacune de nos cellules, nous avons tout le patrimoine génétique qu'il faut pour faire tout ce que nous sommes. Donc, vous extrayez une cellule de peau. Dans la cellule de peau, vous avez un patrimoine génétique qui vous donne accès à toutes les recettes pour faire du sang, des neurones, des cheveux, tout ce que vous voulez. Donc, chacune de nos cellules, à peu près, contient ce livre de recettes. D'accord? Alors, maintenant, je vous le disais avec la découverte de Mono, bien entendu, il faut savoir quand on fait telle recette. Il ne s'agirait pas d'aller mélanger les recettes ou faire des recettes n'importe comment. Là, c'est ce grand livre de recettes est plutôt un réseau de petites entités en interaction, et la régulation d'un gène par un autre permet que finalement on fasse de la peau ici. et pas du sang, ou qu'on fasse du sang ici et pas de la peau, etc. Bon. Mais ce que je voudrais dire, pour ne pas rentrer dans les détails, c'est que la vie, toute la vie, toutes les formes de vie, dans le fond, reposent sur les mêmes constituants, un alphabet à 4 lettres, et 20 acides aminés, pas plus. D'accord ? Toute la vie repose sur 20 acides aminés. Ça, c'est quand même extraordinaire. On aurait pu penser que toutes ces formes variées, la souris et le marronnier, eh bien, on aurait pu se dire, mais pour faire des choses aussi différentes qu'une souris et un marronnier, eh bien, on aurait dû avoir une grande variété de molécules. Eh bien, ce n'est pas vrai. Il suffit de 20 acides aminés, mais combinés différemment. Donc, des constituants les mêmes et la même mécanique. Quand je dis la même mécanique, ça veut dire que tout le vivant se fait toujours à partir de la mécanique suivante. J'ai un patrimoine génétique, je vais en faire une copie, je vais transmettre la copie au ribosome et je vais faire des protéines. Alors ça, c'est extraordinaire et ça rappelle l'unité profonde de la matière. La matière elle-même, je vous l'avais dit, toute la matière repose elle-même sur un petit nombre d'ingrédients. Les quarks, les leptons et puis des interactions fondamentales. Maintenant, tous ces éléments, si bien entendu, ce sont des molécules qui contiennent des atomes qui s'expliquent en termes de quarks, de leptons et d'interactions fondamentales. Donc il y a une magnifique unité dans le cosmos. Magnifique et profonde unité. Qui, bien entendu, pour le philosophe, va poser la question de l'origine de cette unité. Hein, va interpréter dans une herméneutique de la nature, va se poser la question, que signifie cette unité profonde? Oui. Ça veut dire interprétation philosophique des données scientifiques. Hein, par exemple, je vais voir que tout ne se passe pas, par exemple, de manière régulière dans les phénomènes. Il y a, par exemple, une part d'aléatoire. Et ça, c'est ce que le scientifique va décrire. Il y a des phénomènes stochastiques, aléatoires. Et le philosophe va se dire, tiens, est-ce que je ne pourrais pas interpréter ça en termes d'une contingence? Il y a dans l'univers quelque chose qui n'est pas nécessaire. Hein? Et le théologien, il va voir peut-être la trace d'une créativité. Hein? Donc, l'herméneutique, c'est, d'une certaine manière, au sens où je l'entends ici, hein, c'est l'interprétation donc des données, ici en particulier des données scientifiques, sur un plan philosophique. Ok. Bon, maintenant, cohérence également intéressante, et qui a été découverte avant l'évolution de l'univers, en 1859, avec le moment de la parution de l'origine des espèces de Darwin, mais l'idée était là depuis longtemps, il y a ça, l'idée d'évolution est là chez Lamarck, elle est présente chez Buffon, elle est présente même un peu plus tôt probablement, mais 1859 est une date importante parce que c'est à ce moment-là que Darwin va publier, ou va être d'une certaine manière contraint de publier l'origine des espèces. Alors, qu'est-ce qui est spécifique de Darwin? Ce qui est spécifique de Darwin, c'est d'avoir bien entendu souligné le fait que la vie est une histoire. Rien ne se comprend dans la vie si ce n'est au travers de l'histoire évolutive. On pourrait dire que des choses complexes du vivant deviennent relativement simples à comprendre quand on sait que ça a été produit par une histoire évolutive. Et je donne par exemple un exemple, je me souviens d'une réflexion d'un professeur d'anatomie qui disait, c'est très difficile d'enseigner l'anatomie humaine aux étudiants parce que il y a des tas de vaisseaux et de manières dont les vaisseaux se contorsionnent, etc. Et l'étudiant a du mal à s'y retrouver à travers tous ces vaisseaux, à travers tous ces nerfs qui s'embobinent, etc., dans tous les sens. Et apparemment, il n'y a pas une logique à cela. Et le professeur d'anatomie faisait remarquer que, lui, il expliquait l'anatomie humaine en reparcourant l'évolution. Et quand on reparcourt l'évolution, on voit que toute une série de structures sont des structures qui se déforment progressivement ou se reconfigurent. Et dans le fond, la logique, on se dit, mais tiens, pourquoi y a-t-il telle structure à tel endroit? Mais ça, quand on remet ça dans la perspective historique, on voit que petit à petit, la vie a bricolé des choses, s'est reconfigurée, et on comprend progressivement que ce qui était paraissait illogique est simplement le produit d'une accumulation successive de phases historiques. Par exemple, pour comprendre les os de l'oreille interne, de notre oreille interne, c'est extrêmement intéressant d'aller voir d'où viennent ces petits os dans l'histoire évolutive. Et on comprend alors qu'effectivement, c'est le résultat d'une déformation progressive de structure qui était présente déjà depuis très très longtemps. Bon, rien ne se comprend dans l'anatomie instantanée sans cette dimension d'historicité, si vous voulez. Mais le propre de Darwin, si on veut, c'est pas tellement d'avoir insisté sur l'histoire, hein, et c'est plutôt d'avoir proposé un mécanisme d'évolution. Vous voyez ?